Bonsoir à tous. Merci d'être venu pour cette première conférence de l'année 2022. Et donc, au nom de tous les organisateurs, hein, que ce soit le Musée des Confluences et toutes ses équipes, les équipes de bénévoles et de médiateurs du Club d'Astronomie de Lyon-Père, on tient à vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, une année qu'on espère surtout pleine de retrouvailles et de rencontres, dont on a été un petit peu frustrés ces derniers temps. Croisons les doigts, on va espérer que ça se passe bien. Et donc, pour cette première conférence 2022, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pierre Thomas, un habitué des conférences. Ça fait, bon, j'ai rien, 20 ans qu'on fait des choses ensemble.
Ouais, à peu près. Ah, et le son est même revenu chez moi.
Ouais.
C'est prodigieux.
Touche pas ton micro, touche pas ton micro. Et donc une longue amitié, une longue histoire ensemble. Et c'est vrai que j'ai toujours apprécié tes conférences au fil de ces années, ton envie et ta capacité à vulgariser la science, à parler de la science avec ton langage, à montrer l'utilité et l'intérêt de la science et de la connaissance scientifique pour la société. On voit très bien dans la période que l'on traverse que c'était un travail nécessaire
En géologie, moins qu'en biologie, mais...
et qu'il faut qu'on continue avec tout le monde. Donc, je suis vraiment très content de t'accueillir pour cette nouvelle conférence. Et surtout que tu vas nous expliquer, nous parler un peu de Mars, qui est un sujet que l'on aime toujours, surtout qu'il y a une activité scientifique intense là-bas. Et surtout, tu vas nous montrer comment, avec finalement un peu de curiosité et d'image, on est capable de comprendre des choses, d'émettre des hypothèses, de trouver des nouvelles connaissances. Et c'est un travail que je trouve formidable. Je te laisse. On se
Merci.
retrouve après la conférence pour la partie
Question.
questions du public et questions des internautes, puisque cette conférence est aussi donc en live sur Facebook et sur YouTube. Utilisez les commentaires pour faire passer vos questions. On les dira à la fin. Merci Pierre, c'est à toi.
Voilà, bon. Donc, comme c'est écrit en dessus, je ne vais pas du tout parler, ou quasiment pas, de persévérance. La nouvelle mission qui est sur Mars depuis le début de l'année 21. Je vais vous montrer comment les géologues qui travaillent actuellement avec persévérance font. Et pour ça, je m'inspire du passé, puisqu'il y a déjà eu trois robots, Spirit, Opportunity et Curiosity. Les deux premiers sont morts, le troisième marche encore très bien. Donc, comment on fait? Alors, c'est très différent des autres missions. Persévérance, parce qu'elle va ramener des échantillons. Elle va pouvoir faire des petits forages et en ramener une petite quarantaine. Chacun fera quelques grammes. Persévérance les stockera dans un coin et dans une dizaine d'années, une mission se posera à côté du stock, si tout va bien, et les ramènera sur Terre. Vous vous imaginez bien que ramasser 40 échantillons sur une mission qui va peut-être durer 5-6 ans, il va falloir les choisir judicieusement et surtout, il ne faudra pas se tromper. Du genre ramener trois fois de suite un échantillon pareil, etc. Donc, comment sur Terre un géologue, des géologues vont choisir les échantillons? Mais pour ça, il va falloir qu'ils interprètent, qu'ils fassent de la vraie géologie, comme on devrait faire tout le temps. Alors, on sait depuis 71-72, avec la mission Mariner 9, que de l'eau a coulé sur Mars. C'est plus un problème. Et ce qu'on voudrait savoir, c'est si cette eau, il y a 3 à 4 milliards d'années, a permis une chimie organique qu'on va appeler prébiotique, voire a permis de développer une vie très ancienne, il y a 3-4 milliards d'années, qu'on pourrait appeler primitive, parce que c'est parmi les premières, mais j'ai mis des guillemets à primitif, ce n'est pas péjoratif. Donc c'est avec cet objectif principal, trouver s'il y a eu de la vie sur Mars, qu'on y va. Alors il y a d'autres thèmes très importants, mais qui ne font pas la une des grands médias. C'est par exemple quelle est l'activité interne, la sismologie, les volcanismes et tout ça. Ça, c'est beaucoup moins attracteur, ou attractif, je ne sais pas ce qu'on dit, que trouver la vie fossile. Donc, c'est pour ça que quatre missions avec robots étaient lancées. Spirit, qui est arrivé en 2004 et qui est mort en 2010. Opportunity, qui est arrivé en 2004 aussi, qui est mort en 2018. Vous voyez la durée de la mission. Curiosity, qui est arrivé en 2012 et qui marche encore très bien. Et Persévérance, qui est arrivé en 2021 et qui marche encore très bien. Donc, on va faire de la géologie pour voir comment travaillent devant leur ordinateur, avec essentiellement une caméra, donc les yeux, plus quelques instruments scientifiques qui peuvent faire des analyses à distance, qu'est-ce qu'on peut faire pour choisir judicieusement 36 échantillons à ramener dans une dizaine d'années? Alors, première chose, c'est a priori, vous avez ici l'histoire de l'eau sur Mars. Ça, c'est il y a 4 milliards d'années. Ça, c'est aujourd'hui. Au début, comme la Terre, et ça, c'est la Terre à la même échelle. Au début, Mars et la Terre étaient beaucoup trop chaudes, avec les météorites qui tombaient, tout ça. C'était stérile. Puis est arrivée des températures beaucoup plus clémentes, aussi bien sur Mars que sur la Terre, avec de l'eau liquide. Sur la Terre, l'eau liquide existe encore. Sur Mars, apparemment, elle a disparu vers, on va dire, 3 milliards d'années. Et la surface de Mars est devenue trop sèche et trop froide. Sur Terre, la vie est née à cette époque-là. Ça, c'est les endroits où on a trouvé les plus vieilles traces fossiles de vie. Alors, ça discute, mais c'est dans ces eaux-là, si je peux me parler d'eau, dans cette période-là, autour de 4 milliards d'années, on va dire. Donc, si on trouvait des terrains sur Mars, il y a 4 milliards d'années, avec de l'eau liquide, et a priori, il y en a, peut-être qu'on pourrait avoir des témoins de comment est née la vie. Et c'est le but de toutes ces missions sur Mars. Alors, on va voir d'abord comment les géologues, on va oublier un peu la vie, de la NASA, du JPL et des laboratoires associés. Dans les laboratoires associés, il y a même un laboratoire lyonnais, le laboratoire de géologie de Lyon est associé à ces missions. On étudie le volcanisme martien. C'est un sujet annexe pour les grands médias et le grand public, mais combien important. Alors, Spirit, premier des robots, à la suite d'une mauvaise interprétation des images, ce qui est tout à fait excusable avant 2003, le lancement c'était 2003, s'est posé dans des terrains qu'on pensait être sédimentaires, donc des dépôts qui auraient éventuellement enregistré de la chimie, il s'est posé dans un terrain volcanique. C'est dommage, mais puisqu'il était dans un terrain volcanique, il a quand même étudié les roches volcaniques. Donc là, je vous montre au début une plaine plate morne aussi ennuyeuse que la morne plaine de Waterloo. Et puis, il a fait un certain nombre de kilomètres pour s'approcher de collines. Et là, il est monté sur les collines, vous voyez, qui font 100 mètres de haut. Là, j'ai mis la cathédrale de Chartres pour donner l'échelle. Et c'est à partir de par ici qu'il a commencé à avoir des roches en place. Là, vous voyez, c'est des roches, on ne sait pas d'où elles viennent. Vous pouvez étudier les roches, mais elles ont été amenées. Tandis que là, c'est une montagne et vous avez des roches en place. Là, on va dire, c'est comme des pierres des champs. Un géologue appelle ça des pierres volantes. Donc, il est monté et là, il a vu des affleurements. Et je vous montre le premier affleurement. Oui, c'est des roches massives en place. Alors, les roches volcaniques à l'œil nu, souvent, c'est très décevant parce que les cristaux, souvent, sont petits. Et même avec une caméra, souvent, on ne voit pas grand-chose. Mais il avait des instruments analytiques. Et avec ça, il a pu faire des analyses. Alors, les instruments analytiques de Spirit ne sont pas ceux du tout de Perseverance. Hein, il y a quasiment 20 ans entre les deux. Mais là, il a pu quand même trouver un certain nombre de choses. Je ne vous dis pas comment marche cet appareil. Et ça montre que cette roche-là était comme un basalte altéré, c'est-à-dire un basalte qui avait été longtemps en contact avec de l'eau, soit dans une nappe phréatique, soit dans un lac, soit parce qu'il pleuvait. Alors, là, on était à Clovis. Clovis, c'était par là. Clovis, c'est pas du tout notre roi, c'est le nom d'une ville américaine et d'une civilisation précolombienne. Il a continué à monter, et quand il est arrivé presque au sommet de la colline, et là, il a vu des strates. Alors, un géologue, il voit des strates, il dit « Ouais, des strates, ça veut dire quelque chose qui s'est déposé ». Ça peut être des sédiments qui se déposent dans un lac ou dans une mer, ou ça peut être des roches volcaniques, des cendres volcaniques qui retombent. Analyse, c'est des roches volcaniques. Donc ce n'est pas du calcaire ou de la boue comme ça. Mais si un œil de géologue regarde de près, et alors un œil de géologue qui regarde de près, c'est qu'il a un gros zoom, et il peut regarder des détails. Vous avez l'échelle ici, ça fait 1 cm. Et donc là, vous regardez deux sections, alors il les a un peu balayées et polies pour que ça soit net. Et si vous regardez ça, il appelle ça microscope, mais enfin c'est une bonne loupe, vous voyez des cristaux. Il y en a deux ici qui ont une forme de flèche noire, ceux qui sont indiqués par la flèche rouge. Là, ça a une forme de W. Eh bien, quand un géologue voit ça, et qu'en plus, la chimie de la roche et la chimie d'un basalte altéré par de l'eau, il pense tout de suite à ce qu'on a, sur Terre, on appelle des éruptions phréatomagmatiques. C'est quand du basalte arrive au contact d'eau, pas très abondant, c'est pas un océan, c'est un lac peu profond, une nappe phréatique. Il y a des explosions, tout ça, et dans les cendres, vous avez des cristaux, sans doute des pyroxènes, qui ont une forme de cristaux. Alors je vous montre des cristaux automorphes terrestres, vous avez mes doigts, c'est pas les doigts de martiens, vous voyez la taille avec les doigts, là ils sont dégagés, et vous pensez bien que si vous faites une coupe là-dedans, vous aurez des formes qui peuvent ressembler à une flèche, à un W, et c'est exactement ce qu'on voit là. Donc rien qu'en voit ça, on se dit, ben, Il y a eu des éruptions volcaniques, a priori, sous l'eau. Donc ça peut être toujours intéressant. Alors, on continue à monter sur notre colline. On arrive tout en haut. Vous voyez des choses vaguement stratifiées. On zoome, c'est vaguement stratifié. On zoome de plus en plus et on voit que ce qui est vaguement stratifié, c'est ce que le géologue appelle une brèche, c'est-à-dire un conglomérat, un agglomérat de blocs souvent anguleux, des cailloux anguleux, comme ce qu'on voit une pied d'une falaise. Mais certains ne sont pas anguleux, mais sont arrondis. Et si un bloc comme ça est arrondi, c'est parce que, en France, sur Terre, on dirait la mer roulait ses galets, ta-la, ta-la-la. C'est que ce truc-là a été roulé soit par de l'eau, soit par du matériel boueux, qu'on appellerait une coulée de boue. Et quand on regarde la chimie, le phréatomagmatisme, des blocs souvent anguleux mais parfois arrondis, ça fait vraiment penser, sur Terre, à ce qu'on appelle des lahars, c'est un terme indonésien. C'est quand vous avez des éruptions volcaniques, soit sous des glaciers, avec la chaleur qui fait fondre la glace, ça fait des courants d'eau, soit dans un pays à très forte pluviométrie, l'Indonésie ou les Philippines. Ce serait plutôt, sur Mars, même il y a 3 milliards d'années, la situation islandaise. Et voici un dépôt d'un lahar, vous voyez, de près. Et on peut comparer ce lahar terrestre au lahar martien. Ça a la même chimie, ça a le même aspect macroscopique. Donc, on peut se dire que peut-être là-dedans, s'il y avait des forêts, on verrait peut-être des troncs d'arbres. Il y a des troncs d'arbres dans les lahars terrestres. Évidemment, sur Mars, ce n'est pas le cas. Et quand on arrive au sommet de la colline, on regarde de l'autre côté, et on voit cette espèce de machin rond, là, et un autre petit truc ici à côté, et le géologue reconnaît une butte témoin. C'est une couche dure qui a été dégagée par l'érosion et qui reste au sommet. Par exemple, le Mont Valérien qui domine Paris, c'est une couche de je ne sais plus quoi qui domine Paris. En Auvergne, on pourrait dire le plateau de Gergovie, c'est une couche de basalte dur qui est dégagée par l'érosion et qui domine tout le reste. Et donc, les Américains ont appelé ça « home plates ». Et la NASA décide d'aller voir « home plates » de près parce que c'est intriguant. Alors là, il descend, il s'approche, on voit une très très belle couche. C'est les plus belles que Spirit a jamais vues. Et si on s'approche, alors c'est une mosaïque qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais vous voyez toutes ces couches, et on va zoomer ce coin-là. S'il y a un œil géologue, il a tout de suite remarqué ce qui est remarquable. On zoome de plus en plus, et on va regarder ça. Vous avez ici un gros plan. Et voilà. Et quand quelqu'un qui a un petit peu de connaissance géologique voit ça, il pense à quoi? Il pense à ça. Évidemment, c'est sur Terre. Quand vous avez des cendres fines, non consolidées, et puis que fines, c'est-à-dire qui viennent de loin, ou c'était des petites explosions de rien du tout, puis qu'il y a une grosse explosion, il y a des gros blocs qui sortent, qui montent, qui tombent, pof, et ça tombe et ça fait des trous. Ça, c'est la Terre, ça, c'est Mars. Et ça veut dire qu'il y a eu des explosions volcaniques. Et qui dit volcanisme, il dit gaz, pour qu'il y ait des explosions, il faut du gaz. Et très probablement de la vapeur d'eau, parce que dans une éruption volcanique terrestre, au moins, la vapeur d'eau est de loin le gaz majoritaire. Ensuite, il y a du soufre, du SO2, mais du CO2, c'est vraiment l'eau. Et là, donc, on appelle ça du phréatomagmatisme. Là, je vous montre une explosion phréatique terrestre. Voilà, les gros blocs vont plus vite que le reste, la poussière est ralentie, mais vous avez des gros blocs qui vont tomber, ils ne sont pas encore tombés là, et s'ils tombent, celui-là par exemple, pof là, eh bien ça fera dans ce dépôt un trou. Vous voyez, toutes les conclusions qu'on peut tirer conduisent à des éruptions volcaniques en milieu très riche en eau. La minéralogie, la forme des cristaux, la forme des dépôts, minéralogie, tout ça. Alors reconnaître la nature des roches volcaniques à la loupe, massive, même à la loupe, c'est pas facile. Là, vous avez des géologues, on apprend ça à nos étudiants, il faut regarder, etc. En général, ils ne savent même pas se servir d'une loupe, les étudiants, ils font comme Sherlock Holmes, ils mettent le caillou là, la loupe là, alors les petites loupes, il faut se mettre comme ça et approcher le caillou. Alors, je vois, c'est rare qu'on distingue quelque chose avec une caméra. Mais je vous montre un exemple où on voit quelque chose. Ça, c'est un caillou martien. Et si vous cherchez, si vous êtes géologue, ou historien, vous connaissez des roches qui ressemblent à ça. Ça, c'est un caillou brut sur la Terre, qu'on appelle un trachyandésite. Et ça, c'est un trachyandésite qui est connu, en particulier par les Romains, sous le nom de porphyre vert antique. Eh bien, quand on voit ça, on a dit, il y a bien qu'il y a 3 chances sur 4 pour que ce caillou-là, ça soit la même chimie que celui-là, un trachyandésite, je ne vous dis pas l'origine du son. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire quand même quelques analyses chimiques, surtout avec Curiosité, qui marche encore, qui était bien plus perfectionnée que les deux premiers. Il a fait des analyses chimiques et ça confirme le diagnostic. On a un trachyandésite. Mais à la limite, on n'avait pas besoin d'analyse chimique pour être sûr que ça trachyandésite à 9 chances sur 10. Bah, par contre, il y avait une chance sur 10 qu'on se trompe, parce qu'il peut y avoir des convergences. Voilà. Alors, je vous montre quasiment rien de persévérance. J'en montre 2 exemples de persévérance. C'est le premier. En moment, il est en bas, là, et il y a des gros cailloux. Et quand on regarde avec un gros zoom, une cassure fraîche de ce gros caillou, voilà ce qu'on voit. C'est une photo qui a été prise le 16 juin 2021, il y a donc 6-7 mois. Et quand un géologue terrestre voit ça, il ne peut pas ne pas penser à une roche volcanique pleine de gaz. Alors, je farfouille dans la collection de l'ENS de Lyon, je trouve la roche martienne et je trouve une roche terrestre qui ressemble pareil. Donc je me dis, avant qu'il y ait des analyses, ça serait des roches volcaniques, parce qu'on ne savait pas la nature de ces blocs-là avant. Il y a des gens qui disaient que c'était des sédiments, parce qu'on n'est pas loin d'un gros delta. Ça serait des roches volcaniques, que ça ne m'étonnerait pas. J'étais prêt à parier que c'était la même chose. Et là, c'est une planche que je n'ai pas changée, parce que j'ai fait une conférence un peu pareille il y a quelques mois. J'ai dit, attendons les résultats d'analyse, si analyse il y a eu, soit sur ce bloc-là, soit sur un bloc voisin. Eh bien, il se trouve que le 16 décembre, moins d'un mois, ils ont publié des résultats. Sur un bloc voisin, ils ont fait des analyses. Alors là, vous avez donc un morceau, une tranche de caillou qui fait 3 mm dans cette dimension. C'est vraiment tout petit. Et donc là, mettons 1 cm. Et avec un analyseur aux rayons X, il a pu trouver la minéralogie, olivine, pyroxène, on passe. Mais olivine et pyroxène, quelqu'un qui a fait un peu de géologie pense tout de suite roche volcanique. Donc l'analyse confirme ce que disait la morphologie, c'est une roche volcanique. Alors, c'est intéressant de faire la morphologie parce que ça va très vite. Le géologue, il voit ça, il dit « hop, c'est une roche volcanique ». Faire une analyse en posant le truc, ça prend des heures. On ne peut pas analyser tous les cailloux qu'on voit. Donc déjà, le géologue, il va dire « ça, je crois que c'est une roche volcanique, elle a tellement la gueule d'une roche volcanique, allez m'analyser ça ». Ça prend beaucoup plus de temps, et s'il confirme, et il va falloir qu'on ramasse des roches volcaniques pour faire des datations sur Mars. Peut-être ils ont échantillonné cette roche volcanique-là, parce que c'est très facile avec les méthodes de radioactivité de dater les roches volcaniques. Donc l'activité martienne, c'est beaucoup plus difficile sur des sédiments. Voilà un exemple de ce que va faire Persévérance, que ne pouvaient pas faire les autres. Un détail aussi fin pour voir la minéralogie. Alors voilà quelques résultats obtenus et publiés en 2015 sur l'ensemble des roches volcanique analysé par Spirit, Opportunity et Curiosity. Donc c'était bien avant qu'arrive Persévérance. Si on a le temps à la fin, je détaillerai les méthodes analytiques qu'on fait sur place. C'est la même chose que ça, mais automatique. Alors là, c'est pas grave, vous ne comprenez pas, mais c'est pas grave. Vous analysez les roches et vous placez ça dans des diagrammes. S'il y a des gens qui sont allés, par exemple, en première, où on fait un peu de géologie, alors c'est l'option SVT, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous analysez les roches volcaniques, ça c'est la silice, le pourcentage d'oxyde de silicium dans les roches. Là c'est le pourcentage d'oxyde de sodium et de potassium. Vous mettez vos roches comme ça, et toutes les roches martiennes se placent dans un champ, comme ça. Et s'il y a des géologues ici, ils verront que ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la lignée alcaline. Et là le géologue terrestre en disant... Eh bien, ça ressemble tellement à la lignée alcaline terrestre que probablement que les processus géologiques qu'ont fait ces roches volcaniques sur Mars sont pas trop différents de ceux qui font les roches alcalines sur Terre. C'est pas une preuve, mais c'est une bonne indication. Donc c'est ce genre de démarche que font les géologues martiens quand ils étudient autre chose que les sédiments pour chercher de la vie. Alors, ça c'était le hors-d'œuvre. Maintenant, on va voir comment les géologues de la NASA du JPL, Jet Propulsion Laboratory, des laboratoires associés, dont le laboratoire de géologie de Lyon, ont étudié et fait parler les sédiments martiens. les sédiments, donc déposés par le vent, par l'eau, choses comme ça, étant de loin les meilleures archives du passé humide de cette planète. Voilà les des strates, et là, c'est les archives. Alors, des couches sédimentaires sur Mars, Opportunity et Curiosity en ont trouvé partout. Autant Spirit était dans les roches volcaniques, Opportunity et Curiosity étaient que dans les sédiments. Alors ici, c'est le paysage au niveau de l'atterrissage de Curiosity, qu'on a découvert en août 2012, juste après qu'il soit posé. Et vous voyez des magnifiques couches sédimentaires. Si on les regarde de près, ces couches sédimentaires, voilà, on les regarde de près, il y a des couches plus dures qui sont dégagées par l'érosion. On va regarder dans ce cahier, dans ce carton-là. Et vous voyez, par exemple, ici, un gros galet, enfin, gros galet comme ça, quoi, quelques centimètres, bien rond. Là encore, la mer roulait ses galets, la mer ou les rivières. Et on peut comparer ce qu'on appelle des conglomérats, c'est-à-dire des galets, un agglomérat de galets sur Terre, et la même chose sur Mars. Donc, pour faire un agglomérat de galets ronds, ça pourrait être quelque chose comme ça, ça c'est sur Terre, évidemment, une rivière ou une plage. Là, c'est le courant de la rivière qui roule les galets. Sur une plage, c'est les vagues, les marées. Donc, quand je dis la mer, ça peut être un lac, etc. Donc, il a dû y avoir des paysages de ce genre-là, là où s'est posé Curiosity. Alors, c'est normal, parce que Curiosity s'est posé au niveau de la punaise jaune. Les Américains avaient choisi ce site, parce que regardez ici, il y a une vallée, une ancienne vallée. Et puis, ça se divise, et vous avez ici ce que... on appelle en bon français géologue un cône de déjection. Quand c'est émergé, si c'est dans un lac, on appelle ça un delta. Donc la NASA s'est posée sur un cône de déjection, donc on s'attendait à trouver des débris torrentiels. Quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'on a trouvé, heureusement. Alors, certains gens ont dit qu'on a trouvé ça. Ouais, on a la preuve qu'il y a de l'eau sur Mars. Quand on se pose sur un delta, on n'a pas besoin de la preuve qu'il y a de l'eau sur Mars, puisqu'on s'est posé là où on savait que de l'eau avait coulé. Mais enfin... Alors là, je vous montre un équivalent terrestre, hein, c'est quelque part dans le Tibet, c'est une vieille Google Earth. Vous avez un cône de déjection et qui arrive, alors ici c'est sec, mais peut-être que si c'était humide ici, il y aurait un lac. Mais quand la photo a été prise, c'était sec. Et notre Curiosity s'est posé quelque part à la partie distale. Alors, quand on sort de ces couches de conglomérats, on arrive dans des couches, toujours curieuses. J'ai toujours mis le nom de la mission en haut, hein, si je ne la dis pas chaque fois, vous n'avez qu'à lire. Vous avez des dalles d'un matériel beaucoup moins grossier. Quand vous vous approchez, même à cette échelle-là, vous ne voyez pas les petits cailloux. En fait, c'est du sable consolidé. Dessous, c'est de l'argile, bien érodée, et là, c'est du sable consolidé, ce que le géologue appelle du grès. Alors, les roches tendres sont riches en argile. Et les rayons X nous disent que c'est des smectites, les argiles. Alors, smectite, vous connaissez le smecta. On achète ça en pharmacie, ça, c'est bon pour les brûlures d'estomac. Les smectites, ça se forme en milieu non acide. Si y a des smectites ici, c'est-à-dire que ces sédiments sont déposés dans de l'eau, mais pas de l'eau acide. De l'eau neutre ou basique, mais pas acide. Le sable, on ne peut pas dire. Et si on regarde le sable de près, de très près, de très très près, hein, vous voyez, ça fait un centimètre, on voit des petits grains, c'est du sable, avec des petits grains ronds, comme ça. C'est-à-dire qu'une rivière transportait des petits grains de sable, donc ça coulait pas vite, pour transporter des galets comme ça, il faut que ça coule vite, transporter du sable, pas besoin que ça coule vite. Et c'est ces couches de grès qui se craquellent dans ce paysage. Alors là, je vous montre un grès de la région lyonnaise, pour prouver que c'est un grès terrestre, il y a même un tout petit bout de fossile, là. Ça, je l'ai ramassé à 4 km de l'ENS de Lyon, ça doit faire à peu près 4 km d'ici, hein, vers Saint-Fons. Vous pouvez ramasser du grès comme ça, sans aucun problème, si vous savez regarder. Alors, toujours dans le coin, sur Curiosity, on se déplace un peu et on arrive là, et on voit des très belles couches, toujours pareil, et on va regarder des détails par là. Regardez ces belles couches. Et un œil de géologue, qui a... Il y a des gens qui voient tout de suite un pickpocket, il verra les poches faciles à piquer, un obsédé sexuel, il verra les belles filles ou les beaux garçons, le géologue, ça n'empêche pas de voir les belles filles, mais enfin, il va dire, tiens, ici, les couches ne sont pas tout à fait comme les autres. Regardez, j'ai souligné, vous avez des strates de premier ordre, presque horizontales, qui sont soulignées en rouge, Et puis, dans les strates de premier ordre, vous avez des strates de deuxième ordre qui sont inclinées. Je les ai soulignées en jaune. On parle de stratification oblique. Alors, c'est pas foulé pour trouver le nom. Alors, ça existe partout sur Terre. Voici ici des stratifications obliques. Ça, c'est Terre, ça, c'est Mars. Et voilà un détail de stratification oblique vu par Opportunity. Donc là, l'image brute, l'image interprétée. Et là encore, qu'on peut comparer avec à peu près la même échelle à des images terrestres. Et si on met les deux côte à côte, vous avez Opportunity et vous avez les corbières. Il y a du vin dans les corbières, il n'y en a pas sur Mars, mais les strates sont les mêmes. Alors comment dépose-t-on des strates comme ça? Voilà un petit modèle réduit parfaitement naturel. C'est une plage à marée basse. Vous êtes, il y a du sable, il y a des cailloux. Et vous avez déjà vu quand la marée basse, il y a toujours des ruisseaux de l'eau qui sort du sable qui coule. Et vous avez des ruisseaux très temporaires. Ils vont être submergés à la prochaine marée haute qui coule, qui amène du sable. Alors là, ça coule assez vite, c'est pas très profond. Puis quand ça arrive dans un trou d'eau, la profondeur augmente et la vitesse du courant diminue. Si la vitesse du courant diminue, les grains de sable se déposent. Et il se dépose, ça fait une espèce de mini-delta. Là, c'est mon couteau qui donne l'échelle, qui est planté dans le sable. Et là, vous voyez un gros plan. Voilà comment ça se passe. Ici, l'eau coule, il n'y en a pas épais. Les grains de sable sont transportés. Hop. Puis, on arrive à l'osmose profonde. Les grains de sable, l'eau, donc, ralentissent. Les grains de sable tombent. Et il se dépose une couche comme ça. Et puis une couche comme ça. Et puis une couche comme ça. Et ça fait ça. C'est exactement ce qu'on voit là. À petite échelle. Oula! Donc, le géologue, quand il voit ça, il dit tout de suite, non seulement il y avait du courant, mais le courant venait de la gauche. Il peut même voir la paléo-courantologie, la direction des paléo-courants. Alors, voilà, ça, vous avez la Loire, là. Là, il y a un trou, là, il y a du sable, et là, vous avez un espèce de mini-delta, et les sédiments, le sable de Loire qui se dépose ici, qui s'est déposé ici lors de la dernière crue, ça ressemble à ce qu'on a vu sur Mars ou ce qu'on a vu dans les corbières. Alors là, on a vu des stratifications obliques centimétriques. Là, je vous en montre des métriques. Mars, Terre. Et regardez bien cette photo, on va en utiliser tout à l'heure. Curiosity s'est posé là. Et la NASA a tracé cette carte, ça c'est l'ancien lac. Ils avaient des bons arguments pour donner cette forme-là. Et là, c'est la rivière et le delta dont je parlais tout à l'heure. Et la NASA a dessiné cette carte avec le lac et la direction des courants, parce qu'on voit des petites vallées, là on ne les voit pas bien parce qu'il y a les flèches noires, mais il y a les petites vallées, l'eau coulait comme ça. Et se jetait dans le lac, et Curiosity s'est posé juste à ce niveau-là. Mémorisez cette carte, on la reverra, cette carte a été faite en 2013. Enfin, fournie en 2013 par la NASA. Alors là, on va quitter notre site d'atterrissage et on va aller vers par là, parce que le but, ça sera de monter par ces vallées-là. Alors il faut se déplacer et on va voir ce qui se passe par là. Alors vous voyez ces dalles de grès bien horizontales, et puis dessous, ces dalles de grès bien horizontales, il est possible que dans ces dalles de grès bien horizontales, il y ait des petites couches inclinées, mais on ne les voit pas de loin. On va voir ce qu'il y a dessous. Alors là, on regarde les dalles de grès horizontales et les dalles de, le grès qui est dessous. Alors, on ne voit pas très bien, mais le grès qui est là, c'est horizontal. Hop. Là, c'est horizontal. Là, ce n'est pas horizontal, ça penche comme ça. La direction, c'est est-nord-est, et ça penche vers le sud-sud-est. Là, on verra peut-être mieux. Les couches ici ne sont pas horizontales, elles penchent comme ça. Et sur de grandes distances. Ce n'est pas des petits machins, c'est très grand. Comment sont déposées ces couches inclinées? Ben, on l'a déjà vu. Hein? Mais ce n'était pas un petit ruisseau de rien du tout, c'était un machin qui déposait, qui faisait un delta de plusieurs centaines de mètres. Alors vous imaginez bien que les couches, elles se déposent là. Imaginez que je jette dans le petit ruisseau, là, sur la mer qui baisse, une poignée de sable coloré. Le sable coloré va entraîner, et il va se déposer ici. Et vous aurez une couche de sable coloré inclinée, et la couche de sable coloré inclinée va se déposer perpendiculairement au courant qui transporte le sable. C'est logique. Mais je reprends la carte de tout à l'heure, carte dessinée en 2013. Or, on est arrivé là en 2014. Et voici la direction des couches. Les couches ont la direction des traits inclinés, ont la direction des traits rouges. Et c'est bien perpendiculaire au courant que la NASA avait dessiné avant d'avoir vu les couches. Donc là encore, ça montre que tous ces raisonnements de géologie, c'est cartésien, c'est logique, ça se recoupe, ça s'auto-confirme. Alors, dans les images de la NASA, alors entre, c'est extraordinaire, la NASA, tous les jours, elle met en ligne toutes les images prises la veille. Donc tous les soirs, vous regardez les images prises par Perseverance, et vous pouvez faire des découvertes par vous-même. Alors vous n'avez pas les analyses, vous n'avez pas l'échelle, vous n'avez pas l'orientation, mais vous avez les images. Et là, par exemple, on voit sur une grande distance des couches horizontales, donc déposées à plat, tranquillement, etc. Et là, des couches inclinées, déposées par un delta. Quand on voit ça, c'est ce que j'appelle l'orgasme géologique, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, des comparaisons comme je les aime, j'aime bien comparer la Terre et Mars. Voici Mars, voici la Terre. À peu près à la même échelle. Ça ressemble quand même. Donc, si vous cherchez des sédiments déposés par une eau très calme, c'est là que vous aurez plus de chances, par exemple, d'avoir d'éventuelles bactéries fossiles. Ça sera plutôt dans ces sédiments-là, qui sont déposés dans les eaux calmes, que là-dedans où c'était un delta avec un courant. Donc, interpréter cet affleurement va permettre de choisir judicieusement, le plus judicieusement possible, un endroit à prélever. Alors, ces stratifications peuvent être très grandes. Là, vous avez une forêt, tous ces machins-là, c'est des grands arbres. Et là, vous avez forcément vu qu'il y a des couches horizontales et des couches inclinées. Là, vous avez un grand delta, qui sont sur Terre, terrestre, évidemment. Et c'est un grand vieux delta. Il a 3 milliards d'années. Giga, ça veut dire giga-année. Donc, pendant que se déposait ce delta sur Mars, sur Terre, il est tout à fait possible que quelque chose d'équivalent, à la même époque, se dépose sur Mars aussi. Et le but de la mission Perseverance, c'est justement d'explorer un delta qui s'est fabriqué, déposé entre 3 et 4 milliards d'années sur Mars. Il y avait déjà la même chose qui se déposait sur Terre. Alors là, c'est une vue aérienne. On ne voit pas bien l'échelle. Ça, c'est des bateaux de pêche avec leur sillage, vous voyez. C'est la Léna, grand fleuve sibérien, qui se jette dans quasiment un lac, un élargissement de la Léna. Et vous voyez tous ces bras de rivière qui forment des deltas. Alors, je ne sais pas combien ça fait le sillage d'un bateau, mettons que ça fasse 50 mètres. Si ça fait 50 mètres, vous voyez la taille de ces deltas. Ça fait de là à là plusieurs kilomètres. Alors, je reviens à Perseverance. C'est le deuxième exemple de Perseverance que je vais traiter, dont je vais parler aujourd'hui. C'est une publication qui est sortie il y a moins d'un mois. La publication, mais les photos étaient à la disposition de tout le monde. Vous avez ici à peu près 125 mètres de là à là, dans le cratère G0. G0, c'est le nom de son cratère. Des couches horizontales, et entre les deux, des couches inclinées. Je pense que maintenant, vous êtes très fort pour les retrouver. Et je n'ai pas pu ne pas m'empêcher de mettre en même temps un paysage martien, ancien delta, un paysage terrestre, ancien delta, qui, à un milliard d'années près, sont contemporains. Qu'est-ce que c'est qu'un milliard d'années près, hein ? C'est 25% d'erreur. Si les politiciens faisaient des erreurs que de 25%, on n'en serait pas dans la même merde que maintenant. Donc, des deltas terrestres, martiens. Alors voici la vue d'ensemble de ça, c'est une butte témoin. L'érosion, ces couches continuaient à droite et à gauche, l'érosion les a enlevées. Ce que je vous ai montré, c'est cette partie-là. Et la direction des couches montre que l'eau qui a déposé ça venait de la droite. Donc là, c'est l'eau qui arrivait, qui a déposé ça. Et quand on replace cette colline qui s'appelle Kodiak, dans son impression, Kodiak, c'est la colline qui est là. C'est un morceau du delta, voici la rivière qui arrivait dans le temps, qui serpentait, qui arrivait dans un grand lac, qui remplissait un cratère. Et là, c'est son delta, qui allait plus loin, mais l'érosion l'a enlevé. Et là, vous avez Kodiak. Ça, c'est le champ de la photo précédente. Je vous ai dit, avec la photo précédente, que l'eau devait arriver de droite. Ben, l'eau, elle arrivait comme ça. Quand on voit le delta en entier, il n'y a pas de problème, on comprend. Donc, il y a des gens qui ont titré, c'est la preuve que le cratère G0 a été rempli par un lac avec un delta. Quand on voit ça, on n'a pas besoin d'être très très malin pour voir que c'est un ancien delta. Donc, maintenant, le robot, il va se rapprocher, rentrer dans le delta. Il y a des couches fines, des couches épaisses, etc. Il va faire de la géologie. Alors, revenons à Curiosity. On a vu des strates obliques. Mais souvent, les strates sont bien horizontales. Et si elles sont bien horizontales, comme ici, c'est parce qu'elles ont été déposées dans de l'eau calme. Quand l'eau coule, on ne dépose pas. Quand ça ralentit, on dépose de façon inclinée. Mais sinon, quand l'eau est très calme, c'est de la poussière, du sable amené par le vent, ça fait des couches bien horizontales. Et là, vous avez une magnifique couche bien horizontale. Alors ça, c'est des couches bien horizontales, tout à fait terrestres. C'est quelque part dans un désert en Argentine. Et parfois, ces couches peuvent être très fines. Et si les couches sont très fines, c'est-à-dire que l'eau était incapable de transporter même un grain de sable. Elle pouvait transporter que de la poussière, des machins hyper fins. Et ça, c'est bon si on veut chercher des traces de vie dans des archives. Et là, vous avez des strates très, très fines. Regardez-moi ça. Et ça ressemble... Alors, regardez celle-là. Là, vous avez l'échelle, ici. Les strates... Et pendant très longtemps, enfin, très épais, on a déposé des sédiments très fins, donc dans de l'eau très calme. Alors là, je monte de l'eau très calme, qui a déposé des sédiments très fins, dans un lac de l'Ardèche. Hein, vous avez mon couteau qui donne l'échelle. Ça, c'est la terre. Ça, c'est sûr. Ça n'a pas la même couleur, mais il lui suffit que je mette ça en noir et blanc, vous n'auriez pas vu la différence. Alors, je vais vous montrer qu'un œil averti voit parfois des géométries surprenantes dans ces strates. Je vais vous montrer trois exemples de choses surprenantes que là, pareil, un promeneur de base ne verrait peut-être pas, mais qu'un géologue, dont c'est le métier, et qui est payé pour ça, voit. Alors là, opportunity, vous avez des strates, il y a à peu près 10 cm entre chaque flèche verte. Vous avez des strates, 1, 2, 3, etc., espacées à peu près tous les 10 cm. Puis, si vous regardez bien en détail, dans la strate de 10 cm, vous voyez des petites stratules. Vous voyez ces petites... Il y a des strates de deuxième ordre, alors sont très peu visibles, mais on les voit. Dans l'intérieur de la grosse strate, de façon parallèle, il y a des strates de deuxième ordre. Et je n'ai pas compté, mais mettons qu'il y a par strate de premier ordre, il y a 10 strates de deuxième ordre. Là, il y a une strate de premier ordre et 10 strates de deuxième ordre, etc. Il y a une commensurabilité entre les stratifications de deuxième ordre et les stratifications de premier ordre. Alors ça, également, c'est connu sur Terre. Voici une vue quelque part dans le Pays Basque. C'est joli. On va zoomer un petit peu. Et vous avez des stratifications de premier ordre. Ça toque. 1, 2, 3, 4. En rouge sur ce schéma. Et chaque strate de premier ordre est divisée en 4 sous-strates de deuxième ordre. Et c'est toujours une strate de premier ordre, 4 strates de deuxième ordre. C'est régulier. Qu'est-ce qui fait cette régularité ? Des choses bien régulières dans la nature, l'astronomie, c'est souvent le cas. Prenez l'orbite de la Terre, elle a des variations. L'ellipticité varie avec une période de 100 000 ans. Et la précession des équinoxes fait que le contraste des saisons varie avec une période de 26 000 ans. Eh bien, ces variations d'ellipticité et de saisonnalité font des variations climatiques qui entretiennent des variations du plancton ou de l'érosion sur les montagnes avoisinantes, et ça se retraduit dans les sédiments. Là, vous voyez des rythmes astronomiques dans les roches. Eh bien, probablement que c'est la même chose sur Terre, sur Mars. Et si on connaissait les rythmes qui font modifier l'orbite de Mars, il y a 3,5 milliards d'années, on pourrait savoir en combien de temps s'est déposée cette couche. Alors si les astronomes, avec leurs calculs, leurs modèles, nous disent les variations orbitales de Mars avaient une période de n'importe quoi de 500 000 ans et de 10 millions d'années, eh bien on dirait chaque strate individuelle c'est 500 000 ans et ça fait 10 millions d'années. Alors je vous donne un deuxième exemple. Là vous avez un affleurement, là c'est Opportunity. Si vous regardez bien, vous avez les couches ici qui sont hop, hop. Pour qu'on les voit mieux, je les souligne en rouge. Les Américains appelaient ça des festoons. Couches festonnées. Le français est partout. Et c'est régulier. C'est festonné, mais la pente à droite, ici, est pareille que la pente à gauche. C'est des festons symétriques. Alors voici des festons symétriques bien terrestres. Qu'est-ce qui fait ça ? Là, vous avez l'échelle, donnez le couteau. Là, les Américains sont gentils, ils ont donné l'échelle, 3 cm. Qu'est-ce qui fait ça ? Vous connaissez les rides dissymétriques. C'est par exemple sur une plage, quand l'eau se retire, ça fait des rides dissymétriques. Ce qui fait des rides symétriques, c'est quand l'eau n'est pas très profonde et que l'eau clapote. Quand il y a du courant, par exemple, vous pêchez, il y a du courant, le bouchon s'en va. S'il n'y a pas de courant, mais c'est une flaque d'eau avec du vent, le bouchon monte et descend, mais ne bouge pas. Eh bien, les rides symétriques, c'est quand il y a du clapot. Comme ici, là, vous avez un grand trou d'eau sur une plage. Les rides sont à peu près symétriques. Ce n'est pas des rides de marée parce que le marée est basse, c'est parce qu'il y avait un peu d'eau et ça clapote. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur Terre, la longueur d'onde de ces rides, là, vous avez mon couteau qui donne l'échelle, donne l'ordre de grandeur de la profondeur de la flaque d'eau. Si on revient sur Mars, il y a à peu près 5 cm de là à là. Ça veut dire que ces sédiments-là se sont déposés dans une flaque d'eau de quelques centimètres d'épaisseur. Et un jour, il y a eu du vent et ça a fait ces sédiments festonnés. Troisième exemple, là c'est curiosité, un autre type de structure. Hein. Vous avez des roches, ça c'est des roches qui sont vieilles, c'est des roches qui sont jeunes. Si celle-là a fleur, c'est parce que ce qu'il y a dessus a été érodé. Et regardez là. Vous avez forcément vu, en regardant ça, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voici l'équivalent terrestre. Vous avez quelque chose de très peu profond. Alors on est content, là, très peu profond, on a déjà vu des choses très peu profondes, quelques centimètres. Si c'est quelques centimètres, ça peut s'assécher en plein été. Et bien là, c'était un lac temporaire qui s'assèche en plein été. Ça, ça devait être quelque chose pareil sur Mars. Alors regardez la morphologie de ces, ce qu'on appelle ça des fentes de dessiccation, c'est plat. Et là, vous avez des fentes de dessiccation, on va regarder ce caillou-là. C'est de l'argile très fine. Et c'est relevé sur les bords. Et là, je vous donne l'équivalent terrestre de fente de dessiccation relevée sur les bords. Je ne suis pas sédimentologue, mais un sédimentologue averti vous dira que ça, c'est du matériel beaucoup plus fin, donc c'est beaucoup plus propice à préserver de la matière organique, voire des fossiles de microbes, que ça, qui est quand même plus grossier. Donc s'il a un prélèvement à faire, entre là, et là, eh ben, le géologue, il aura 36 à faire en tout. Alors, il faudra qu'il choisisse bien, il dira, je vais le faire là-dedans. Alors, il y a des gens que ça étonne que je montre des fentes de dessiccation actuelles, qui datent de la dernière pluie, et puis des fentes de dessiccation, comme peut-être 3,5 milliards d'années. Trouver des fentes de dessiccation qui ont de la dernière pluie, c'est facile. Mais 3 milliards d'années, comment peut-on les conserver? Il ne faut pas oublier que sur ces fentes de dessiccation, il y avait des choses déposées par-dessus. Peut-être, je ne sais pas, 500 mètres de roche. Et ces 500 mètres de roche ont été érodés. Et par hasard, miraculeux hasard, l'affleurement fait affleurer un endroit où il y a des fentes de dessiccation. Et je vous montre un exemple qui n'est pas très loin de Lyon, à côté de Nantua. C'est des roches de 150 millions d'années, jurassiques. Des fentes de dessiccation, vous les voyez très bien. Alors par-dessus, c'est déposé plein de roches. Peut-être 1000 mètres de roche s'est déposé par-dessus. Et le hasard de l'érosion fait que ces fentes de dessiccation, maintenant, affleurent. Je suis passé juste après une pluie. Donc, la dalle, dans le temps, c'était de la vase, ça, de la boue. Maintenant, c'est devenu de la roche, en 150 millions. Mais la roche était mouillée, on dirait que c'est de la boue mouillée, alors que c'est de la roche bien dure. Et sur cette, quand c'était de la boue, eh bien, il y a un dinosaure qui est passé. Et il a ici laissé deux traces, une patte, une deuxième patte, une troisième à la main. Donc vous voyez des pattes de dinosaures qui ont marché dans de la boue. Imaginez le fantasme le plus fantasmatique que là-dedans, là on pourrait trouver, c'est en Mongolie, on pourrait trouver des traces de chameaux, de vaches ou de yak. Si là-dedans on trouvait une trace de quelque chose, ça serait, c'est pas l'orgasme, c'est l'épectase. Donc des traces de dinosaures photographiées à moins d'une heure de voiture de Lyon, je vous dirai pas trop où, parce que si tout le monde y va, il n'y en aura plus. Alors ici, c'est sur Mars, on reconnaît, je ne vais pas vous dire comment, des stratifications éoliennes avec une certaine géométrie de dépôt qu'on peut comparer avec des stratifications éoliennes sur Terre. Alors là, si on veut ramasser des molécules fossiles, c'est moins bon que des sédiments qui sont déposés dans un lac tranquille. Donc là, si on avait 300 prélèvements à faire, on en ferait peut-être là. Quand on en a 36, moi, j'en ferais pas. Alors, parfois, on reconnaît même les minéraux dans ces roches sédimentaires. Là, c'est Opportunity. Vous avez, là, vous avez l'échelle, 3 cm. Vous avez les couches horizontales. Quand on grossit, on voit des petits trous dans les couches horizontales. Et si on grossit, on voit des... c'est les mêmes, un trou, avec une forme géométrique. Par exemple, ça, c'est une forme de losange. Et le géologue terrestre, qui a l'habitude, quand il voit des trous comme ça, en forme de losange, ça porte même un nom, c'est des pseudomorphoses. En fait, c'est des fantômes de Christogypse. Dans cette argile, dans cette boue, qui est maintenant de la roche, il s'est développé du sel. Alors, il y a des chlorures, des sulfates, ça, c'est des sulfates, qui ont pris la place de l'argile. Ça fait un... Et puis, si on dissout le gypse, le sel, il reste l'empreinte. Alors, je vous montre la même chose sur Terre, quelque part dans l'oligocène du Languedoc. Là, vous avez la boue qui est devenue roche. Là, vous avez les cristaux de sel, de sulfate, qui sont encore là. Mais comme c'est à l'air, vous attendez quelques saisons de pluie, et des fois, il pleut beaucoup dans le Languedoc, il restera des trous en forme de cristaux de sel. Et alors ça, c'était sur Opportunity. On a retrouvé les mêmes sur Curiosity. Là, vous avez une section qui était bien balayée. Là, c'est la balayette de Curiosity. Et si on regarde bien, vous avez ces pseudomorphoses, ces fantômes, qui ont la forme de cristaux de gypse. Alors ensuite, là, il a pu faire des analyses. Non seulement ça a la forme de cristaux de gypse, mais ce sont des cristaux de gypse. Alors, vous voyez tout ce qu'on a vu. Il y a du gypse. Le gypse, ça dépose quand vous avez des lacs salés ou des mers très peu profondes, des fonds de golfe qui s'assèchent. On a vu des fentes de dessiccation. Pour que ça s'assèche, il faut que ça soit peu profond. Vous ne desséchez pas un océan. Vous desséchez une mare. On a vu des flaques d'eau peu profondes, avec des petites vaguelettes symétriques. Et là, c'est un pays. Tout ça avec souvent la chimie des sédiments ressemble à de la chimie de roche volcanique. Eh bien, voilà un paysage qui pourrait tout à fait... Alors, il est bien terrestre. Hein, vous avez deux flamants roses qui volent. Et ici, un qui mange. Donc, on est bien sur Terre. Mais ça, pour un paysage martien, avec ses vaguelettes dans les mares peu profondes, ses fentes de dessiccation, ça pourrait ressembler à ça. Et il y a des gens qui vont dire, sur Terre, si on veut analyser, avoir le plus de chances de trouver des molécules organiques, est-ce qu'il faut aller dans des machins comme ça, dans des machins comme ça? Il y a des missions de la NASA, c'est dans le désert d'Atacama, qui vont là-bas. Pour vous. Et ils se serviront des leçons terrestres pour, ça sera une indication, c'est pas une preuve, pour faire leur prélèvement martien. Alors avec tout ça, la NASA a dessiné ces petits machins que j'ai un peu arrangés. C'est un paysage à l'époque de Curiosity. De temps en temps, vous avez des deltas avec des sédiments grossiers, pas de lac. Puis un peu après, vous avez un lac, vous avez des sédiments fins. Puis le lac se rassèche, vous n'avez plus que quelques petites mares. Et ici, vous avez des dunes avec des sédiments déposés par le vent. Donc, on essaye de reconstituer les différentes phases de l'évolution des paysages. Ici, c'est le cratère Gale, l'Anglais Security. Et ensuite, ça sera aux gens de dire, avec tout ce qu'on a vu, compris, qu'est-ce qu'on prélève? Imaginez s'ils se trompent et qu'ils prélèvent un endroit où il n'y a rien, alors qu'à côté, il y aurait eu quelque chose. Alors, une découverte. Ah ben ça va, j'ai le temps. Inattendu en 2004, Opportunity, puis confirmé par Curiosity, il y a de l'eau froide, phréatique, ou de l'eau chaude, hydrothermale, qui a jadis circulé dans les sols et les sous-sols de Mars. Alors ça, c'est de l'eau très riche en fer, l'eau ferrugineuse, froide. Et là, c'est de l'eau riche en silice, chaude. Donc, d'eau froide ou de l'eau chaude, qui circule dans le sol, et puis, des fois, il sort. Alors, ça, c'est la première photo, une des premières photos prises par Opportunity, en janvier 2004. Il y a une petite falaise, 75 cm d'eau, il s'est posé juste à côté. Et on voit des affleurements déposés en strates. C'est la première fois qu'on voyait des strates vues du sol sur Mars. Viking et Pathfinder n'avaient pas vu de couches. Et là, première fois on se pose, des couches. Alléluia, alléluia. C'est extraordinaire. Et si vous vous approchez, ce n'était pas difficile de s'approcher, il était à 10 mètres. On voit dans le sol ou dans les cailloux plein de petites boules. Vous voyez toutes ces petites boules, on dirait un roulement à billes. Et là, vous avez un caillou, il y a des petites boules dedans. On va zoomer le 1 et zoomer le 2. Le 1. Alors, ces petites boules font quelques millimètres de diamètre. Les Américains l'ont appelé tout de suite berries ou blueberries, qu'on pourrait traduire en myrtilles. Il y a donc des myrtilles sur Mars. Ça, c'est dans le sol et ça, c'est enchâssé dans la roche. Vous avez l'échelle ici, ça fait 4 mm de diamètre. Alors ces premières myrtilles, découvertes quasiment le lendemain de l'atterrissage, ont été partout sur Opportunity, il y en a partout, partout, et ici ou là sur le trajet de Curiosity. Et alors, il y a des endroits où les myrtilles, c'est un clafoutis de myrtilles. Ils n'ont pas mégoté, hein, c'est une pâtisserie, c'est pas du McDonald's avec trois myrtilles et beaucoup de jus de betterave. Il y avait vraiment une grande, grande densité de myrtilles. Elles montent parfois, pas toujours, même assez rarement, mais elles montent parfois une structure concentrique. Alors quand on a découvert ça, le tout début de Curiosity, tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce que ça peut être, ces petites boules? Et bien pour ça, on va appliquer le bon vieux principe, je l'ai déjà dit 10 fois depuis que je suis là, la planétologie comparée. Cherchons sur Terre des structures analogues. Alors on peut toujours dire, ces petites boules, c'est qu'il y a un vaisseau extraterrestre qui s'est scratché, c'est le roulement à billes de ces réacteurs. C'est tout à fait pas exclu, mais c'est peu probable. Est-ce que sur Terre, on pourrait voir des formations, des phénomènes naturels qui forment des petites boules? Alors j'en ai listé quelques-uns, et on va aller regarder ça. Et c'est là que, je cite, vous avez déjà vu, vous, en vous promenant, de telles petites boules tout à fait terrestres? Probablement pas. Et c'est l'occasion, là, que j'ai de citer le prophète Jérémie. Jérémie 5, 21. Phrase reprise et par les évangiles et par le Coran. Donc, c'est vraiment les trois religions monothéistes reconnaissent Jérémie. Jérémie a dit à son peuple, « Peuple insensé et stupide, qui avait des yeux mais ne voyait pas. » La plupart des promeneurs qui se promènent dans la nature, si Jérémie était là, il se ferait engueuler. Parce que vous avez forcément marché, passé à côté de myrtilles. Alors, je vous en montre quelques exemples. Alors ça, c'est des myrtilles assez rares. C'est des formations, enfin, c'est une micro-goutte d'impact comme une grosse météorite, comme celle qui a participé à l'extinction des dinosaures. Ça fond un peu le sol, ça fait des gouttelettes qui jaillissent partout. Et ça peut faire donc des myrtilles qu'on appelle des microtectites. Et là, c'est une collection de microtectites, dont le diamètre est 20 cm, ramassées dans certains terrains d'Australie. Je ne sais pas si les aborigènes y mettent des divinités. Alors là, c'est dans des roches volcaniques. Alors ça, ça vient des Andes, mais il y a la même chose à Gergovie. Gergovie, lieu de notre grande, immortelle, éternelle victoire. C'est ce qu'on appelle des grêlons de cendres. Quand vous avez des cendres très fines, parce que vous avez un gros nuage de poussière volcanique très fine, s'il y a un orage et qu'il y a des gouttes d'eau qui traversent ce nuage de cendres extrêmement fine, la goutte d'eau absorbe toute la poussière de la cendre fine et ça fait une petite boule de cendres qui tombent par terre. On appelle ça des grêlons de cendres. Alors, au point de vue chimie, ça, c'est une composition de silicate. C'est de la roche terrestre fondue. Ça, c'est des silicates. Ça peut être déposé par des phénomènes hydrothermaux. Quand c'est de la pure silice, ça fait ce qu'on appelle la geysérite. Ça, il ne faut pas le dire, mais il y en a un des deux qui vient de Yellowstone. C'est une photo du web. L'autre, je l'ai ramassé en Islande. Il ne faut pas le dire, c'est interdit, mais je n'ai pas cassé le site. C'est à la sortie d'un tuyau d'une centrale géothermique qu'ils étaient en train de curer. Et en curant la centrale géothermique, donc c'est le tartre, mais du tartre en silice, et qui fait les mêmes petites boules. Alors là, c'est l'Auvergne. Alors, il ne faut pas regarder ce que je montre, il faut regarder là. Je montre autre chose, mais ce n'est pas le sujet. Il faut regarder là. Donc, c'est la même chose que là. Et vous voyez plein, plein, plein de petites boules. Alors, celle-là, c'est du calcaire. C'est ACO3. C'est ce qu'on appelle des pisolites. Pisome, c'est le poids en latin, c'est la taille d'un petit pois. L'Américain aurait pu appeler ça des... pas des berries, mais des... pas comment on dit le poids en latin, c'est pis. Donc, des petites boules en calcaire. Ça, c'est des petites boules en silice. Ça, c'est des petites boules en silicate. Alors, un autre endroit, là, on va sur le désert d'Atacama, vous avez des petites boules, un mélange de petites boules de sulfate et de calcaire. Toujours mes petits flamants roses et mon couteau qui donne l'échelle. Là, revenons en Auvergne, c'est des petites boules d'oxyde de fer. Donc il y a plein de processus géologiques sur Terre qui font des petites boules. Sur Mars, qu'est-ce qui a fait ces petites boules? Alors ça peut être un phénomène qui n'existe absolument pas sur Terre, mais ça pourrait être, dans toutes ces petites boules, il y a oxyde de fer, sulfate et carbonate, silicate. Le problème, c'est que ces petites boules sont petites. Et l'analyseur d'Opportunity, il pouvait analyser que des surfaces de 5 cm de diamètre. Donc, il analysait pas la petite boule, mais l'environ. Mais les Américains sont des petits futés. Ils ont trouvé ici ce qu'ils appelaient le Blueberries Bowl, le bol de myrtilles. Il y a un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de myrtilles. Ce qui fait justement à peu près 5 cm de large. Ici, il n'y en a quasiment pas. Ils mettent leur analyseur ici, ils mettent leur analyseur là, et s'il y a des différences, la différence, elle est due aux myrtilles. Alors c'est un Speck-Mosbauer, je ne vous explique pas ce que c'est que Mosbauer, mais ce qui distingue les myrtilles du reste, c'est qu'on voit que c'est les raies spectrales, dans la spectrographie Mohs-Bauer, de l'hématite, c'est-à-dire de l'oxyde de fer. Ces petites boules martiennes ont la même chimie que ces petites boules du sud de la Limagne, à côté d'Issoire. Je ne dis pas que c'est la même chose. Et ces petites boules en oxyde de fer sur Terre, comment ça se fabrique? Ça se fabrique dans le sol, pays chaud ou pays froid, quand il y a une nappe phréatique qui monte et qui descend, une zone de battement de nappe phréatique avec alternance. Et ça fait ce genre de petites boules, souvent avec une structure concentrique, mais pas toujours. Enfin, parfois avec une structure concentrique, mais pas toujours. Et après bien des hésitations, c'est ce qui a été retenu par tous les scientifiques de la NASA, c'est qu'on avait une nappe phréatique qui montait, qui descendait. Dans la zone de balancement de la nappe phréatique, il y a des concrétions d'oxyde de fer, parce qu'il y a des eaux froides qui précipitaient des oxydes de fer. Alors là, c'est dans une forêt en Guadeloupe, donc sous une forêt tropicale, mais on pourrait trouver la même chose sous une forêt froide. Et là, c'est pour comparer à la même échelle des accumulations de petites boules d'oxyde de fer terrestre et des accumulations de petites boules d'oxyde de fer martienne. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose, mais enfin, quand même. Alors une chose, là, c'est de mon cru, la NASA n'en a jamais parlé, elle a montré les photos, mais elle en a jamais parlé ce qu'on appelle les pierres d'aigle, aïtite en français. Alors autant les petites boules, c'est courant, j'en ai vu des dizaines d'affleurements dans toute mon existence, des aïtites en place, je ne connais un seul affleurement. Personnellement, en Haute-Loire, donc restons français quand même. Alors qu'est-ce que c'est que la NASA, à ma connaissance, n'a pas publié d'interprétation sur ces aïtites. Alors qu'est-ce que c'est que des aïtites? On appelle ça des gigamyrtilles. Vous en avez une grosse ici. Vous en avez une petite ici, la plus petite. En fait, une aïtite, c'est une grosse coque d'oxyde de fer. Et à l'intérieur, c'est pas de l'oxyde de fer, c'est autre chose. Alors ça, c'est une aïtite supposée aïtite, ou là, martienne, et là, mes doigts vous montrent que ce sont des aïtites terrestres. Donc, les myrtilles, c'est fréquent, les aïtites, qu'on pourrait appeler ça des gigamyrtilles, il y a un endroit sur Mars où Curiosity en a vu. Alors, une parenthèse, les aïtites, ça intriguait beaucoup les anciens, hein, qui donnaient à ces pierres plein de vertus diverses et variées. Peut-être à la fin, j'ai des livres qui décrivent les aïtites au 18e ou 19e siècle, hein. Il y avait déjà de la lithothérapie, c'est-à-dire des choses, faire payer les crédules riches pour gagner des sous. C'est ça la lithothérapie. Alors voilà où on trouve des aïtites terrestres, quelque part en Haute-Loire. Ça veut dire que de l'eau ferrugineuse circulait, en général ça faisait des myrtilles, des fois des œufs d'aigle aïtites. Alors Bitton est après arrivé, Opportunity a trouvé dans une zone, dans cette zone-là, des filons blancs, il y en a un là, il y en a un là, dégagés par l'érosion, dont le filon H, qui est ici, Homestake. Si on le regarde de près, voilà, c'est joli, c'est blanc, c'est un peu plus résistant que le reste, donc l'érosion, surtout éolienne, le dégage. Alors il a été analysé avec les méthodes d'Opportunity, c'est-à-dire qu'il n'était pas très fort en analyse. Il a montré qu'il y avait du calcium et du soufre dans les mêmes proportions que dans le gypse. Curiosity pouvait analyser le gypse, Opportunity pouvait dire il y a du soufre et du calcium dans les mêmes proportions. Quant à l'oxygène et l'hydrogène, Opportunity n'est même pas capable de les analyser. Quand on regardait, avant même de l'analyser, ce filon, qui fait 2 cm de large, là c'est l'image brute, vous voyez une structuration comme ça. Là, vous l'avez la même interprétée. Eh bien ça, ces lignes perpendiculaire au bord du filon, c'est ultra, hyper classique dans les filons terrestres, en particulier les filons de gypse et les filons hydrothermaux en général. Alors là, c'est un filon de gypse, petit filon de gypse, vous avez la lame de mon couteau qui vous donne l'échelle, et vous avez cette structure-là. Ça, c'est dans le désert égyptien. Voilà, vu d'un peu plus loin. Voilà, vu de beaucoup plus loin. Et là, c'est une chose dont je suis très fier, mes chevilles vont enfler. C'est un article de la NASA, sur le site de la NASA, où ils ont fait une photo sur Mars avec ces petits filonnets blancs. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient utiliser ma photo, qui était sur un article que j'ai mis sur le web, pour faire la comparaison. Et j'ai dit oui, bien sûr. Et donc, c'est la façon, la NASA fait la même chose. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils aient besoin d'emprunter mes photos, alors que des filons de gypse comme ça court les rues. Mais enfin bon, passons. vous avez le paysage martien, la roche martienne, la roche terrestre. Et là, ils ont pu montrer que c'était du gypse, parce qu'ils pouvaient l'analyser, et que le sédiment, c'était une argile avec une composition basaltique, c'est-à-dire ce qui se déposerait dans un petit lac ou dans une petite mare à La Réunion ou à Hawaï, avec des volcans pas loin. Alors, en se promenant, Curiosity a trouvé des filons de gypse, mais de toute beauté, dans un endroit avec des gigamyrtilles. Alors, ce n'est pas des aéptites, parce qu'il n'y a pas de structure concentrique, mais enfin, c'est de la grosse myrtille. Ça, c'est Mars. Vous retrouvez la structure du filon. Structure du filon. Et ça, c'est la Terre. Là encore, la comparaison, et voilà, la Terre, vue de loin, vue de près. Donc, il y a des filons de gypse. Ça veut dire que de l'eau a circulé et déposait le gypse, le sulfate de calcium, déposait sur son trajet du sulfate de calcium. On a vu des sédiments, il y avait des cristaux de sulfate de calcium qui avaient précipité, par exemple, au fond d'un lac. Et là, c'est de l'eau transportant du sulfate de calcium qui se met dans des fissures. Alors, si on regarde ce coin-là, on voit un superbe réseau de filons qui se recoupent les uns les autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que le filon, il est, on va dire, gris-vert à périphérie et blanc à cœur. Les parties sombres, gris-vert, sont riches en fer, avec un peu de magnésium, etc. Le cœur clair est riche en sulfate de calcium. C'est-à-dire que l'eau qui circulait dans ces fissures changeait au cours du temps. Elle a d'abord déposé des roches, des minéraux riches en fer avec un peu de magnésium et tout ça. Puis, au cœur, elle a déposé que du sulfate de calcium. On peut faire une espèce de géologie, une chronologie des circulations de fluides. Alors là, on va voir trois résultats fournis par ces filons. Un résultat chronologique. On va regarder un détail de par là. Vous voyez que les roches en bas et les roches en haut ne sont pas les mêmes. En haut, c'est du grès. En bas, c'est du gypse, de l'argile. De l'argile, du grès. Eau très calme, eau moins calme. En bas, dans les argiles, il y a plein de filons de gypse. En haut, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on peut faire une chronologie. D'abord, dépôt des couches inférieures, c'est de l'argile. Puis, fracturation de ces couches inférieures, circulation de fluide, remplissage des fractures par du gypse. Puis, érosion. Oui ? Non. Puis, érosion. Puis, par-dessus, dépôt des couches de grès supérieures. Donc, la fracturation s'est faite après le dépôt des couches d'argile, mais avant le dépôt des couches de grès. On peut dater les... Il faut faire des fractures, il faut de la tectonique, il faut des mouvements. Donc on peut dater les mouvements après les argiles et avant les grès. Et là, vous avez un détail de ces argiles traversées par des filons, recoupées, recouvertes par des grès qui ne sont pas traversés par les filons. S'il y avait des étudiants dans la salle, je leur dirais que c'est un très bel exercice de chronologie relative. Alors, un résultat chimique, alors regardez pas les machins. Vous avez le pourcentage en silicium et le pourcentage en titane. Ils ont analysé les roches qui étaient riches en silice. Vous voyez le nombre d'analyses qu'ils ont fait. Chaque point est une analyse. Hein, ça fait des centaines d'analyses. Et il se trouve que quand vous enrichissez en silice, vous enrichissez aussi en titane. Quand c'est pauvre en silice, c'est pauvre en titane. Donc, une corrélation entre la teneur en titane et la teneur en silice. Et ça, sur Terre, quand vous avez cette corrélation, c'est-à-dire que quand l'un augmente, l'autre augmente, quand l'un diminue, l'autre diminue, quoi ? Ça veut dire quoi ? Ah ben, il fallait me le dire avant, que j'avais qu'une heure. Bon, alors je vais me dépêcher. Ça veut dire que ce truc-là a été altéré en milieu acide. Si ce n'était pas en milieu acide, il n'y aurait pas ça. Or, dans ces roches riches en silice, il y a des smectites. Les smectites se déposent en milieu neutre ou basique. Et c'est altéré après, on ne peut pas altérer une roche si elle n'est pas déposée, en milieu acide. On assiste là à l'acidification des eaux martiennes. Au départ, les eaux martiennes étaient neutres ou basiques. Ils déposaient des smectites. Puis les choses ont changé. Puis il y a de l'eau qui a circulé. Et cette eau qui a circulé était acide. Et ça se voit par la correspondance silicium. Et justement, puisque j'ai 5 minutes, je vais finir avec cette partie-là, qui est très alléchante. Vous ne verrez pas toute la fin, tant pis. C'est un résultat biologique avec des guillemets. C'est paru dans Nature. Et ça va vous montrer ce résultat, tout ce qu'on peut faire avec des caméras et des analyseurs, Ici, c'était des spectres infrarouges. Mais les limites de ces études in situ, avec la technologie actuelle, et la nécessité de retour d'échantillons. C'est Spirit. On est près de Home Plate, on est par là. Et la NASA voit des roches un peu plus claires que les autres, par là. Elle décide d'aller voir ça de près. Alors d'abord, elle, voilà, et elle trouve, là je vous donne le résultat d'avance, que ces roches claires, riches en silice, ça ressemble beaucoup, je vais vous prouver, avec ce qu'on trouve sur Terre, dans les champs de geysers. Là, c'est quelque part dans le Tasio, altiplano du Chili. Et vous avez ces roches blanches, etc. Et ils se disent, morphologiquement, ça se ressemble. Alors, et chimiquement, ça se ressemble. Là, vous avez des spectres infrarouges faits sur Mars. Et là, vous avez des spectres infrarouges faits dans des dépôts siliceux de geysers. Donc, similitude spectrale et similitude morphologique, nous y voilà. Là, vous avez Mars et là, vous avez la Terre, avec la même échelle. Ces espèces de sédiments un peu tarabiscotés. Mars, la Terre. Mars, la Terre. Même spectre, donc même chimie, même morphologie. Hein. Vous avez l'échelle ici, 1 cm. Alors, sur Terre, on peut regarder d'encore plus près, ce qu'on ne peut pas faire sur Mars. Et sur Terre, ces structures-là sont déposées, sont d'origine biogénique, déposées par des bactéries qui vivent dans les eaux très chaudes. Et là, vous avez des, on voit plein de bactéries. Sur Mars, on ne peut pas voir si près. D'où la nécessité de ramener des échantillons. Si Opportunity avait pu ramener des échantillons, c'est Spirit, avait pu ramener des échantillons, je suis sûr qu'ils auraient ramené ça pour voir ce qu'il y avait là-dedans. Alors, pourrait-ce, vous voyez, ça tombe bien, s'il reste du temps, eh bien, comme il ne m'en reste pas, je vais aller très vite. Ah si, je vais vous montrer ça quand même. Une nouveauté extraordinaire de Perseverance. Il a un analyseur qu'on appelle un spectro-Raman. Alors, un spectro-Raman, c'est un faisceau laser qui éclaire violemment une cible et la lumière est absorbée, réfléchie, mais en partie diffusée par la cible. 99,999% de la lumière est diffusée dans la même longueur d'onde. Mais à peu près un photon sur un million est diffusé dans une autre longueur d'onde à la suite d'un mécanisme tout à fait bizarre qu'on appelle l'effet Raman. Et la longueur d'onde de ces lumières diffusées par effet Raman est caractéristique soit de la structure cristalline, soit de la nature moléculaire dans le cas des molécules organiques. Alors là, par exemple, je vous montre un spectre Raman. Une molécule que tout le monde connaît, c'est le paracétamol. Je ne pense pas qu'on en trouve sur Mars. Mais il y a des raies spectrales, vous avez un spectre, c'est un code barre. Si jamais vous voyez ça sur Mars, vous direz, il y a du paracétamol sur Mars. Mais là, je vous montre une petite expérience qu'on a fait à Lyon, avec un spectre Raman portable, parce qu'il y a un Raman sur Lyon, sur Persévérance, et un des ingénieurs qui l'aide à le faire marcher, il est du laboratoire de Lyon. Je ne sais pas si vous voyez, à côté du nouveau palais de justice, il y a la nouvelle maison des avocats. Et vous avez forcément, parce que vous obéissez à Jérémy, vu. Vous avez des yeux, donc vous avez vu. Il y a des dalles. Et si vous regardez ces dalles, la maison des avocats, on passe à côté, il y a le tramway qui passe à côté. Ben vous voyez des mines, vous voyez que c'est des micaschistes, vous voyez des grenats, et vous voyez des minéraux qui forment des losanges, voire des espèces de croix noires. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la staurotide, 9 chances sur 10. Ça pourrait être de l'amphibole, 1 chance sur 10. Ça, c'est l'œil du vieux géologue, j'ai fait ça l'an dernier, de 69 ans. Eh bien, on sort son Raman portable. Alors, Curiosity, il en a un. Persévérance, en a un. Donc, voici le technicien qui s'occupe de Persévérance. Là, c'est un Raman portable au labo. On le sort. On le plaque sur le minéral litigieux, c'est pas ce que c'est. On tire un long coup de laser, plusieurs dizaines de secondes, hein, si on veut que le rapport signal sur bruit soit bon. On regarde sur son ordinateur portable à côté s'il y a des raies spectrales identifiables. S'il n'y en a pas, on recommence une deuxième fois. On ramène ça au laboratoire et on compare avec une banque de spectres. Et on voit que c'est de la staurotide. Alléluia. C'était pas la peine de faire du Raman pour la reconnaître. Mais il y avait quand même un doute. J'avais dit 9 chances sur 10, mais peut-être 1 chance sur 10. Le Raman a permis de trancher. Les résultats de Persévérance commencent à être publiés. Tout marche bien. Et on va s'arrêter sur ces perspectives très alléchantes. et je vous remercie. C'est extraordinaire que j'ai réussi à finir. Alors qu'on ne m'avait pas dit que j'avais qu'une heure cinq.
Ouais, mais je voulais pas te frustrer avant le début de la conférence.
Comment ?
Après, je ne sais jamais à quelle vitesse tu vas.
Non, mais tu m'aurais donné l'heure, ça aurait été bien. Voilà, avez-vous des questions ? J'espère.
Donc, merci Pierre. On va prendre deux, trois questions en salle, pas plus. Il faudra qu'on pense à rendre l'antenne. Hein. C'est le live qui a ses contraintes. Est-ce que... Alors, le principe est celui-là. Hein. Vous levez la main, vous posez votre question assez fort pour que je l'entende. Et moi, je vais la redire, éventuellement en la reformulant, de telle manière à ce qu'elle soit enregistrée et diffusée.
Il y en a une au premier rang. C'est de l'oxyde ferrique hydraté.
Ah oui. Je viens de donner les règles.
Ben oui, mais je suis vieux. Alzheimer.
Donc, couleur orange sur Mars. Pourquoi ?
Parce qu'il y a de l'hydroxyde de fer.
Eh ben voilà. Voilà. Une petite question qui nous provient des lives. On voit beaucoup de similitudes avec la géologie terrestre. Hein, c'est ce que vous avez expliqué. Est-ce que vous avez donc vu des choses géologiques qui ne correspondraient à rien de connu sur Terre ? Des spécificités martiennes.
Au sol, quasiment pas. Alors, pas, au sol, c'est-à-dire vu de très près, à petite échelle. À grande échelle, il y a des grosses différences. Par exemple, les réseaux fluviatiles n'ont pas du tout la même morphologie. Sur Terre, les réseaux fluviatiles, la majorité, c'est dû à de la pluie et c'est de la neige qu'ils font. Sur Mars, la géométrie des réseaux fluviatiles ressemble plutôt à ce qui se passe. Ça arrive sur Terre, mais c'est rare. Que vous avez un sol gelé plein de glace. Et par exemple, des phénomènes volcaniques font fondre de la glace. Voilà, donc il y a des différences, mais beaucoup plus vues de loin que vues de près. Mais peut-être que je n'ai pas bien vu les différences, parce que... Mais vues de près, on n'a pas vu de minéraux nouveaux. Il y a quelques minéraux, mais c'est les mêmes, c'est des silicates, c'est des carbonates. La grande différence, c'est pour l'instant, on n'a pas vu de fossiles.
Et est-ce que finalement, au lieu d'envoyer des lasers, des spectro-machins, des trucs là-bas, on n'aurait mieux pas fait de t'envoyer ?
Mais si on prend Opportunity, qui a fait 40 et quelques kilomètres en quasiment 20 ans, si on avait envoyé un bon géologue avec une Jeep type le Jeep lunaire qu'il y avait sur les trois derniers Apollo, et ben, ce qu'a fait Curiosity en 20 ans, un bon géologue l'aurait fait en une semaine. Mais ça aurait coûté 100 fois plus cher, avec tous les risques, etc. Et puis le géologue, il aurait fallu, dans l'état actuel de la technique, qu'il signe un papier, j'autorise à ne pas rentrer, je me suicide là. Donc pour l'instant...
Mais c'est pour la science.
Ouais, mais bon, moi personnellement, je n'ai pas une vocation à la Giordano Bruno, tu vois. Donc c'est sûr qu'un bon géologue sur place ferait tellement plus vite. Mais imaginez qu'on dise, on envoie un bon géologue, il va explorer dans un petit coin. Mettons 50 km. Avec le même prix, vous faites 100 missions automatiques que vous allez envoyer dans 100 endroits différents. Donc, beaucoup mieux explorer Mars. Donc, l'homme sur Mars, c'est pour bien faire un coin, puis il y a toute la notion politique, etc. Avec un budget illimité, il faudra envoyer des hommes sur Mars, c'est évident. Mais avec un budget limité, il faut... Les robots, c'est bien. Alors, quand j'ai budget limité, c'est pas cher, hein, l'exploration spatiale. On parle, par exemple, du James Webb télescope. On dit, il a coûté, je crois que c'est 10 milliards de dollars. Hein. 10 milliards de dollars, mais c'est fou le prix que ça coûte. Alors, d'abord, c'est sur 30 ans. Donc, vous dites, mais divisez 10 milliards par 30, ça fait moins d'un milliard par an. Hein. Et ensuite, si vous comparez ça au hasard avec le montant de la fraude et d'évasion fiscale annuelle en France, qui est estimé à 80 milliards d'euros, c'est comme les dollars, on confisquerait cet argent, eh bien, vous en feriez des missions spatiales. S'il y a de l'argent économisé, ce n'est pas sur les missions spatiales. Hein. On sait où est-ce qu'il est, l'argent.
Est-ce que une autre question dans la salle ? On va en prendre une ou deux de plus. Et
Je vois. Là.
Oui. Alors, quels sont les types d'érosion qu'il y a sur Mars ?
Alors, depuis qu'il n'y a plus d'eau liquide, essentiellement l'érosion éolienne. Beaucoup de gens disent l'érosion éolienne, ça ne compte pas, c'est ridicule. Allez dans les déserts et vous verrez, l'érosion éolienne, ce n'est pas du tout ridicule. Et avant, on va dire 3 milliards d'années, eh ben, il y avait l'érosion fluviatile. Et sans doute, j'en ai absolument pas parlé, mais il y a des endroits où on a la preuve qu'il y a eu des glaciers et donc peut-être aussi de l'érosion glaciaire. Mais aujourd'hui, et depuis 2 à 3 milliards d'années, surtout éolien, avant, éolien certainement, fluviatile, voire glaciaire.
Une question avec plein de mots compliqués pour moi. Les strates du pays que tu as montré du Pays Basque, est-ce le Flysch, on va dire ça comme ça, des bases au Maya, sur la côte basque espagnole?
Voilà, alors la question, si c'était les strates avec les trucs de Milankovitch, c'est effectivement Azumaya et c'est du Flysch espagnol.
Bravo à celui qui a posé la question. Lui, il a tout compris, nous avons... peut-être une dernière question dans la salle.
Oui, oui. Là.
Sur votre exemple, sur les plateaux du Chili, vous avez dit qu'il y avait de très fortes chances que ça puisse être reproduit par les bactéries de la structure.
Oui.
Mais on n'a pas encore la réponse.
Ah si, sur Terre, on a la réponse.
Oui, mais sur Mars.
Oui.
Répète. Donc je reprends la question sur les dernières photos que tu as montrées, oui. Tu pourrais montrer de la présence bactérienne. Est-ce que tu es prêt à parier sur ça en est ou ça n'en est pas sur Mars?
Non, je ne parierai pas.
Un chiffre?
Non.
Un chiffre?
Non, je vais te dire pourquoi. Tous les processus que font les bactéries, la vie, c'est naturel. Et elles ne font pas de choses extraordinaires. Mais en général, elles accélèrent beaucoup les processus. Donc, quand vous avez de l'eau avec de la silice dissoute dans l'eau qui sort, s'il n'y a pas de bactéries, la silice va se déposer. S'il y a des bactéries, ça va catalyser les choses et va se déposer plus et plus vite. Et là, j'ai aucune idée en combien de temps ça puisse déposer. C'est comme mes petites boules de calcaire, par exemple, que j'ai montrées en Limagne. Il y a des bactéries qui font ça, mais s'il y avait pas de bactéries, ça se ferait aussi. Mais beaucoup moins vite. La vie ne viole pas la thermodynamique. Elle la catalyse et l'accélère. Alors là, est-ce que ça s'est fait, cette chimie, sans catalyseur ou avec catalyseur? Je n'en sais rien. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que si c'est de la vie qui a fait ça, ça ne sera pas des bactéries. Ça sera certainement des choses petites au sens microbe du terme, mais bactéries, c'est une signification biologique particulière. Et je crois que c'est Darwin qui a dit l'évolution ne repasse pas deux fois les plats. S'il y a de la vie sur Mars, s'il y a eu de la vie sur Mars, ça sera je ne sais pas quoi, mais pas des bactéries au sens bactéries du terme. Par exemple, les gens disent qu'il faut chercher de l'ADN. Il y a plein de molécules organiques qui peuvent transmettre de l'information sans être de l'ADN. Hein? Jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était la vache folle, hein? Il y a 15 ans la vache folle à peu près, on disait qu'il n'y a que l'ADN ou l'ARN qui peuvent transmettre de l'information. Les protéines, c'est le fruit de l'ADN. Et puis on s'est aperçu que certaines protéines, les prions, transmettaient de l'information. Et on pourrait très bien imaginer un monde à prions où toute l'information serait transmise, rien que sur Terre, hein, par des choses qui ne sont pas des acides nucléiques. Alors il y a des gens qui disent qu'il faut chercher des acides nucléiques sur Mars. Je sais pas, là, si on trouve un acide nucléique sur Mars, avec les mêmes bases azotées, je dirais que c'est de la pollution. C'est que le matériel a mal été nettoyé. L'évolution ne repasse pas les plats. C'est une façon de voir quand vous avez des gens qui disent « Ouais, j'ai été enlevé par des extraterrestres » ou l'homme de Roswell, vous voyez l'homme de Roswell, hein, on dit « c'est un extraterrestre ». Ce qu'un biologiste pourrait dire, l'homme de Roswell, il a une tête, deux yeux, un nez, bouche, deux bras, deux jambes. L'évolution ne va pas refaire ça. Et en plus, on voit même que le monsieur qui l'a inventé, c'est un Américain parce qu'il est asexué, il était pubique.
La photo que tu as postée avec les traces de pattes de dinosaures... fait poser une question.
Oui.
Donc la trace a existé dans la boue et comment elle a pu perdurer, sachant que elle aurait pu être effacée.
Elle aurait pu être effacée. C'est pour ça que les traces de dinosaures sont très rares. Il faut qu'il y ait une plage avec de la boue, qu'un dinosaure soit passé, qu'il ait fait ses traces, que la mer soit remontée sans vagues. S'il y a des vagues, ça aurait tout effacé et redéposer une petite couche de boue par-dessus. Mais une petite couche de boue, c'est rien du tout. Et qu'on ait fait ça pendant plusieurs années de suite, il faut un miracle, plusieurs années de suite sans tempête, par exemple. Alors on me dit, ça peut être dans un lagon, chose comme ça. Mais vous avez déjà vu des traces de dinosaures en vous promenant? Non, c'est rare. Or, les dinosaures en France, par exemple, ont vécu pendant à peu près 200 millions d'années. En admettant qu'il y ait la même densité de dinosaures comme grosses bêtes que d'éléphants, il faut à peu près un éléphant par kilomètre carré. S'il y avait un dinosaure par kilomètre carré sur Terre, sur France, ça fait 500 000 dinosaures à un instant T, 500 000 kilomètres carrés. Tout ça intégré sur 200 millions d'années, ça fait des milliards et des milliards de potentiels des dinosaures qui ont été imprimés. Mais pour que ça soit imprimé, il faut que ça soit dans un terrain mou, pas sur une prairie, pas dans une forêt, pas sur un rocher, et que le miraculeux hasard les conservait. Déjà, un fossile, c'est miraculeux de conserver un fossile. Alors, quand c'est un coquillage, ça va, mais strates de dinosaures, en France, j'en connais dans 1, 2, 3, 4, 5 endroits. Donc, c'est rare. Quand je dis je connais, il y en a d'autres, mais que je n'ai pas vus. Donc, il faut des circonstances exceptionnelles.
Très bien, merci pour ta réponse. Nous allons nous quitter là-dessus. Je voudrais encore que l'on remercie Pierre pour cette conférence toujours aussi extraordinaire. Vous donnez rendez-vous dans un mois pour le 15 février, toujours 18h30 et toujours dans cette salle et avec ces équipes-là. Et puis,
ça sera sur quoi ?
Ah, on ne sait pas encore. Là, c'est un peu compliqué en ce moment, la programmation. Donc, il y a encore des petites surprises, mais j'espère bien avoir des informations très rapidement. Encore merci, merci Pierre, merci à vous, merci à ceux qui nous ont suivis, merci à ceux qui nous regarderont après. Bravo à toutes les équipes qui sont occupées de la réalisation. Et on se retrouve donc dans un mois.